Frères et sœurs bien-aimés, en reprenant ce dimanche notre lecture méditée du sermon de la montagne, nous retrouvons le Seigneur à son sommet qui nous enseigne, alors que nous parvient à travers les siècles l'écho lointain de ses enseignements. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait, déclare-t-il, à notre endroit. Mais Seigneur, comment donc nous perfectionner ici-bas? Comment être parfait? Comment nous élever jusqu'à vous rejoindre sur cette haute montagne, la montagne de la vie parfaite? Ne nous est-elle pas inaccessible? Ne présente-t-elle pas des obstacles infranchissables pour les pécheurs que nous sommes? N'est-ce pas là, Seigneur, un bel idéalisme que de tendre l'autre joue et d'aimer ses ennemis? Non. Le Seigneur ne prêche pas là un idéalisme. Il n'est pas venu rêver notre humanité. Il est venu la sauver du péché qui défigure en nous l'image et la ressemblance de Dieu dans laquelle nous avons été créés. Pour restaurer notre humanité, non seulement le Seigneur va s'offrir en réparation sur le bois de la croix, mais en amont de son sacrifice, il s'offre à notre exemple. Il vient parfaire notre éducation, de telle sorte que pour se perfectionner, il nous suffit de le suivre dans la voie où lui, le Seigneur, a marché, sa grâce venant à notre secours. Mais quel est donc l'objet de l'enseignement que nous venons d'entendre? Sur quel sujet le divin maître se penche-t-il précisément ce matin? Écoutons saint Anselme nous répondre. Après avoir défendu tout ce qui peut blesser la charité fraternelle ou le respect dû à Dieu, le Seigneur nous montre quelle doit être notre conduite à l'égard de ceux qui nous ont fait quelque injustice. Une telle problématique nous concerne. Comment réagir aux affronts du quotidien? Que répondre à la méchanceté, à l'insulte comme à la violence? Comment réagir face aux litiges qui, jusque sur le lit de mort, peuvent voir se déchirer des frères et des sœurs? Comment vivre en chrétien cette adversité? Mais plus fondamentalement encore, mais dans quelle perspective nous faut-il surmonter ces injustices? Pour répondre à ces interrogations, mettons-nous à l'école de Saint Jean Chrysostome. Préparons-nous à le suivre pour une ascension qui, paradoxalement, ne commence pas en bas de la montagne, mais à son sommet. En commentant cette page d'évangile depuis le sommet de la montagne, Saint Jean Chrysostome nous place résolument à côté du Seigneur. Ce sommet avoisinant les cieux comme le panorama qu'il offre à notre contemplation est l'image du paradis. Nous ne devons pas perdre de vue dans notre marche ici-bas que nous avançons à la rencontre du Seigneur. La vie éternelle nous est promise. C'est donc dans la perspective du ciel que l'enseignement du Seigneur envisage les différentes injustices que nous avons à surmonter ici-bas. Sur ce sommet, Saint Jean Chrysostome nous invite alors à nous pencher et à découvrir en contrebas le chemin parcouru. Écoutons-le, remarquez, nous dit-il, combien de degrés le Seigneur nous a fait franchir. Et comme il nous a placés avec lui sur le sommet de la vertu. À son école, écoutons-le, une marche après l'autre, nous commenter l'enseignement du divin maître que nous venons d'entendre. Le premier degré est le niveau du sol. Ce point de départ n'est pas explicitement formulé par le Seigneur, c'est ce que présuppose son enseignement, ou peut-être ce que le Seigneur ne peut pas imaginer, tant cela est bas et indigne de ses disciples. Mais qu'est-ce donc ? Écoutons Chrysostome nous le révéler. Le premier degré est que l'injustice ne parte pas de nous. Si le Seigneur entend nous apprendre à surmonter les injustices, il n'envisage pas que nous puissions en être à l'origine. C'est ce qui ressort des béatitudes qui ont ouvert le sermon de la montagne. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ailleurs, dans l'Évangile, il nous met en garde. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira pour vous. Ainsi donc, si nous sommes injustes ici-bas, nous encourons les peines éternelles. Le second degré consiste à ne pas venger l'injustice par une autre injustice. C'est ce que la loi de Dieu prescrit et que nous appelons dans la tradition latine la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. En effet, comme l'attestent les livres de l'Exode, du Lévitique, comme le Deutéronome, il s'agit d'éviter les vendettas personnelles en limitant le châtiment à l'offense reçue, œil pour œil, dent pour dent. Le Seigneur, qui est venu accomplir la loi et non pas l'abolir, nous invite alors à prendre de la hauteur et à dépasser ce droit du retour. C'est l'objet du troisième degré de cette ascension que nous franchissons. En effet, le Seigneur déclare: vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Saint Augustin traduit ainsi cet accomplissement de la loi. Il a été dit aux anciens: ne vous vengez pas injustement. Pour moi, je vous dis, ne vous vengez pas du tout. Et Saint Jérôme de préciser: le Seigneur, en nous enlevant le droit de retour, détruit alors les principes du péché. Dans la loi de Moïse, le péché est amendé. Ici, dans l'Évangile, la racine est arrachée. En effet, le risque avec la loi du talion, c'est de rester sur sa faim. Oh, de ruminer l'offense, de cultiver la rancune, de décupler la haine. En un mot, conclut Saint Jean Chrysostome, de finir par perdre, voilà un péché bien grave, de perdre sa bonté. Si nous devons cultiver cette bonté d'âme, c'est qu'elle se révèle bien utile au quatrième degré auquel nous convie le Seigneur, être patient dans les épreuves. C'est ce que le Seigneur illustre par cette image qui frappe nos mémoires. Si quelqu'un te gifle la joue droite, tends-lui aussi la gauche. Saint Augustin nous permet d'approfondir l'enseignement du Maître. Nous ne pouvons pas avoir de meilleur exemple de patience que le Seigneur lui-même, et lorsqu'il est frappé dans sa passion, il ne dit pas « voici l'autre joue ». Mais si j'ai mal parlé, dites-le-moi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappez-vous ? Et par ces paroles, il nous montre que c'est dans le cœur que doit se trouver notre disposition à présenter l'autre joue. Présenter l'autre joue, c'est donc supporter patiemment les maladresses du quotidien, comme parfois l'acharnement des méchants. Mais pourquoi donc supporter patiemment ces offenses? Sans doute parce que vous, Seigneur, vous supportez les nôtres. Et si dans la perspective du ciel, nous avons à pardonner les offenses qui nous sont faites, c'est parce qu'au jour de notre jugement particulier, nous comptons bien en appeler au pardon de Dieu. C'est sur cette réciprocité du pardon que le Seigneur insistera plus loin dans ce long sermon sur la montagne, en nous apprenant notamment à prier. Quand vous priez, dites « Notre Père, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Il s'agit de la condition primordiale pour entrer dans le royaume des cieux. Passons quelques étapes pour en venir directement au dernier degré de cette ascension. En nous rapprochant du sommet, nous nous rapprochons de Dieu. Ainsi, le Seigneur nous invite-t-il à l'amour du prochain et à la prière qui unit notre âme à Dieu. Écoutons le Seigneur déclarer : Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Si nous trouvons effectivement dans le Lévitique ce commandement, tu aimeras ton prochain, en revanche, aucun des livres saints ne nous invite à haïr notre ennemi. Le Seigneur ne dénonce pas la loi, mais l'étroitesse de l'interprétation des scribes pour qui le revers de l'amour du prochain est la haine des ennemis. Le Seigneur corrige et en cela accomplit la loi. Moi, je vous dis, aimez même vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. En cela, comprenons bien, notre prochain n'est pas seulement l'ami qui nous veut du bien, mais tout autant l'ennemi qui nous veut du mal. Mais en nous exhortant à l'amour des ennemis, le Seigneur voudrait-il dire que nous devons aimer le mal qu'ils nous font ? Devrions-nous aimer leur malice ? Bien sûr que non, vous le comprenez. Le Seigneur nous invite ici à distinguer l'homme de ses actes mauvais, le pécheur de son péché. Il ne s'agit donc pas d'aimer le péché, mais d'aimer le Fils de Dieu. Il ne s'agit pas de prier pour le succès de nos ennemis, mais d'intercéder pour leur conversion. C'est en cela que nous ressemblons à Dieu. C'est donc en ajoutant à la justice, œil pour œil, dent pour dent, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, que nous nous ouvrons chacun à la miséricorde. En effet, conclut saint Grégoire, on n'aime pas celui que l'on ne veut pas voir meilleur. Permettez-moi de vous redire cette phrase de saint Grégoire. On n'aime pas celui que l'on ne veut pas voir meilleur. Au terme de cette ascension, parvenu au sommet de la vie parfaite, supplions le Seigneur d'avoir pitié de nous, pauvres pécheurs, car nous mesurons chacun le chemin qu'il nous reste à parcourir pour aller à sa rencontre. Aidez-nous, Seigneur, à supporter les injustices qui nous sont faites. Aidez-nous, par votre grâce puissante, à nous dépasser et à ressembler chaque jour davantage à notre Père qui est aux cieux. Que ce carême qui s'annonce soit le moment favorable pour nous rapprocher de vous, Seigneur. Ainsi soit-il.